Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que ça se passe bien chez vous. Marianne Paquette au micro pour ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. En novembre 2014, KinéConcept signait une entente plutôt particulière, une entente de partenariat avec le Centre de services de justice réparatrice afin d'offrir des soins en massothérapie à des personnes qui ont subi des actes criminels, que ce soit des agressions physiques, des agressions sexuelles aussi. Je dis particulière parce que c'est une démarche avec une clientèle qui a des besoins bien particuliers et c'est un partenariat extrêmement significatif. On en parle tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec la massothérapeute Sylvie Vanas qui est justement en contact avec cette clientèle. Et puis lundi dernier, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui touche beaucoup de monde au Québec, 125 000 Québécois, maladie neurodégénérative. Et lorsqu'elle surgit, ça engendre beaucoup de bouleversements, beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes au sein d'une famille. Et ce n'est pas étonnant en ce sens-là que les éditions de l'Homme aient eu envie de rééditer au mois d'août dernier un livre extrêmement important en la matière, Le mystère Alzheimer, l'accompagnement, une voix de tendresse et de compassion de Marie Gendron, elle fondatrice de l'organisme Baluchon Alzheimer. On lui parle à l'instant. Marie Gendron, bonjour.
Bonjour, du Saguenay.
Du Saguenay, bon, oui. Je me demandais si c'était Québec, là, c'était 418. Donc, du Saguenay, il fait beau là-bas?
Ah, c'est magnifique aujourd'hui.
Marie Gendron, ce livre-là, Le mystère Alzheimer, l'accompagnement, une voix de tendresse et de compassion, a été édité la première fois en 2008. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et là, on le réédite dans une version peut-être mise à jour, bonifiée même. Et moi, j'ai l'impression, personnellement, pour animer un show de radio sur la santé, que les percées médicales dans l'étude et la compréhension de la maladie Alzheimer, ça va à la vitesse de l'éclair. On en entend parler à toutes les semaines, des nouvelles recherches, des nouvelles données. C'est quoi le grand changement entre 2008 et maintenant?
Par rapport à la recherche, vous voulez dire?
Oui, par rapport aux recherches, à la compréhension qu'on a de la maladie.
Oui, par rapport aux recherches, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches fondamentales pour essayer de trouver le fameux médicament qui guérirait la maladie. Pour ce qui est du regard, je ne crois pas que le regard a beaucoup changé, malheureusement, depuis 2008, parce que je trouve que le regard est plein de stigmatisation par rapport aux gens qui sont atteints.
Mm-hmm.
La société porte, à mon avis, le même regard que les gens qui ne sont plus performants, ceux qui sont en perte d'autonomie. Alors, je trouve qu'on voit, on parle davantage de la maladie que des gens qui sont atteints, malheureusement.
Ouais.
Et je dis toujours que sous la maladie, il y a la personne. Et c'est cette personne-là dont on doit s'occuper et qu'on doit continuer à aimer comme avant.
Oui. Et ça, d'ailleurs, c'était, et on le sent bien à travers le livre, l'un de vos objectifs, parce que, oui, en premier lieu, donner des outils pour mieux accompagner les personnes malades, les familles, les aidants qui souffrent des répercussions de l'Alzheimer, mais aussi de redonner la dignité aux personnes atteintes.
Oui. J'ai eu la chance et le privilège, je dirais, de cohabiter pendant un an et demi avec des gens atteints d'Alzheimer. Et là, j'arrivais plus finalement quand j'ai terminé cette aventure à vivre avec les gens non lucides. Ça a l'air un peu paradoxal, mais pendant un an et demi, je n'avais vécu qu'au niveau du cœur et des émotions avec les personnes avec qui je cohabitais. Et ce que je voudrais faire comprendre, en tout cas, c'est de parler de mon expérience que sous la maladie, il y a la personne qui a exactement les mêmes besoins que nous. Alors, je trouve que le titre, Le mystère Alzheimer, à mon avis, dévoile sûrement la vulnérabilité de chaque être humain que nous sommes.
Et vous avez compris cette maladie-là aussi en accompagnant votre mère qui a souffert de l'Alzheimer?
Oui, ma mère a été atteinte de la maladie durant les 10 dernières années de sa vie. Ça, c'était pas prévu dans mon parcours. Je m'intéressais depuis longtemps aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer et quand maman commençait à être malade, j'ai bien vu les signes précurseurs de la maladie. Alors, j'étais, disons, assez prête, mais j'avais le chapeau de l'intervenante, mais avoir le chapeau de la fille, c'est un petit peu différent.
Oui.
Parce qu'on est dans la tourmente des émotions, on a un passé avec la personne, alors ça m'a aidé à comprendre les aidants que j'accompagnais depuis plusieurs années.
Le livre regorge de citations, de témoignages, et j'ai eu vraiment de plaisir. Je dois le dire, Marie Gendron, j'ai tout lu, les témoignages, les anecdotes, et ça m'a fait sourire souvent, ça m'a touchée. Et il y avait une citation de l'un des aidants qui disait, et je trouvais ça très, très parlant, « La personnalité de ma mère était à 95% ravagée par la maladie d'Alzheimer, mais les 5% qui restaient, c'était 100% ma mère. » Il faut s'accrocher à ça quand on accompagne une personne qui vit avec l'Alzheimer.
Oui, il faut s'accrocher à ça. Il faut reconnaître que le 100% de la mère est encore là. Je peux dire ouvertement qui était cette personne parce que je l'ai vue dans un reportage. C'était Michael Ignatieff dans un reportage.
Ah oui.
Donc, la maman était atteinte. Alors, moi, je trouve ça très beau, finalement, de voir les traits fondamentaux de la personne ressortir malgré la maladie. Excusez-moi.
Oui, allez-y, continuez.
Oui, mais ça nous fait aussi voir des aspects de la personne qui était restée cachée à cause de l'éducation. Parfois, alors, je peux citer maman, qui était une femme de tête, je dirais. Et j'ai vu sa tendresse éclore comme jamais avec la maladie d'Alzheimer parce que toutes les barrières d'une éducation un peu rigide, il faut bien le dire, ont éclaté. Alors, j'ai connu la tendresse de ma mère durant ces années où elle était malade.
Oui, et ça, c'est clairement dit dans le livre. Les qualités du cœur ressortent énormément et l'humour. Il y a d'ailleurs tout un volet accordé à l'humour dans le livre. Et ça, Marie Gendron, ça m'a fait beaucoup rigoler. Je parle d'un monsieur à un moment donné. Il y a plein d'anecdotes. Là, je prends la première qui me vient sous les yeux. Un monsieur qui déclinait la liste des noms de ses frères et sœurs. Et à chaque fois qu'il se nommait, il disait « Ah, ben lui, je le connais. » Et une intervenante disait « Ah, j'aime beaucoup vos réparties. Vous êtes très, très drôle. Vous êtes vraiment un pince sans rire, et il avait rétorqué « Madame, je ris, mais je ne pince pas. »
Oui.
Et il y a plein d'anecdotes extrêmement savoureuses en ce sens. Pourquoi les gens qui vivent avec l'Alzheimer semblent reconnecter beaucoup avec l'humour et les traits d'esprit, eux qui pourtant semblent avoir perdu l'esprit?
Bien, comme je dis souvent, le cœur ne souffre pas d'Alzheimer. Hein?
Mm-hmm.
Le cerveau souffre d'Alzheimer, mais non le cœur. Et ces gens-là, on dirait qu'ils ont une vision presque poétique de la vie. Là, je ne veux pas mettre la pilule rose, là, mais pour avoir vécu longtemps avec des gens atteints, je trouve qu'ils ont un regard authentique très souvent face aux événements. Puis ils n'ont plus de barrières, donc tout ce qui leur passe par la tête, ils osent le dire. C'est même pas oser, c'est qu'ils le disent spontanément. Alors, il reste plein de bouquets de tendresse et de surprises à l'intérieur de leur cœur.
Mais tout de même, la communication se modifie avec eux. Le dialogue, le dialogue, n'est plus le même. Comment, en tant qu'aidant ou en tant que proche, on peut s'adapter? Comment on peut mieux communiquer avec notre proche atteint de la maladie?
Bien, je pense qu'il faut comprendre deux choses. C'est que la personne a plus de difficultés à comprendre ce qu'on lui dit. Puis elle a plus de difficultés à exprimer ce qu'elle dit.
Mm-hmm.
Alors, étant donné qu'il y a une mémoire affective, la mémoire affective, c'est la mémoire des émotions. Et les gens atteints d'Alzheimer nous parlent beaucoup avec leur langage. Le langage non-verbal est très, très important. Mm-hmm. Alors, il faut développer notre sens de l'observation et essayer de décoder les émotions de notre proche à travers ses comportements, puisqu'elle n'est plus capable de s'exprimer par des mots.
Oui, est-ce que vous avez, par exemple, peut-être des situations bien concrètes à nous révéler?
Je me souviens quand je cohabitais avec une dame qui était atteinte, on avait engagé une femme qui était efficace, mais qui faisait énormément de bruit. Elle fermait les portes, les tiroirs de façon assez brute. Et j'étais dans le corridor avec cette dame-là et la nouvelle employée nous précédait. Alors, la dame atteinte d'Alzheimer me regarde, me touche le coude et elle me fait signe que ça n'allait pas du tout. Elle pointe la dame en avant de nous, puis elle me fait signe de la tête en voulant dire non, ça ne fonctionne pas avec elle. Comprenez-vous? Oui. Elle l'avait évaluée
oui.
sans dire un seul mot.
Oui.
Puis c'était la vérité aussi.
Et je pense aussi à cet exemple parce que... Bon, pour mieux comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe dans leur environnement, dans leur univers, dans leur tête, je pense à cet exemple où une aidante regardait la télévision avec, une personne atteinte de l'Alzheimer qu'elle accompagnait. Elle regarde la télévision, les nouvelles du soir, elle est en robe de chambre et le monsieur lui dit « Madame, est-ce qu'on vit une relation intime? » Et elle avait compris à ce moment-là qu'elle devait peut-être garder ses vêtements de jour lorsqu'elle était avec ce monsieur-là pour pas non plus le tromper ou le bon ben qu'il soit plus confus finalement.
Oui, ben c'est moi là, la baluchonne en question. J'ai pas honte de le dire parce que j'ai beaucoup appris de mes erreurs. C'était un de mes premiers baluchonnages, je crois que c'était le troisième en 1999. Alors j'étais confortablement assise en robe de nuit, très longue quand même, les manches longues au cou. Et monsieur me dit, est-ce qu'on a une relation d'intimité, vous et moi? Là, j'ai compris que la seule femme avec qui il regardait la télé,
ben oui.
qui était en robe de chambre, ben c'était madame, ce n'était pas moi.
Oui.
Alors, ça a été une règle d'or, désormais, avec les baluchonneuses, de se mettre en robe de nuit seulement au moment d'aller dormir.
Oui. Marie Gendron, c'est vraiment intéressant de vous entendre. Bon, vous avez appris ça au cours de votre long parcours comme accompagnante, comme personne qui vit avec des gens atteints d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre au contact de ces personnes?
Bien, je pense que c'est assez personnel ce que je vais vous dire, mais j'ai appris ma vulnérabilité. J'ai compris un jour qu'une dame, devant une dame qui pleurait, et je n'arrivais plus à supporter ses pleurs. Je suis arrivée à un cheveu de lui dire « S'il vous plaît, arrêtez de pleurer ». Et là, j'ai pris conscience qu'elle réveillait mes propres souffrances. Ça, c'est une grande, grande révélation. Alors, quand on est devant une grande souffrance puis on n'est plus capable de la supporter, je pense qu'il faut regarder à l'intérieur de soi et travailler nos propres souffrances.
Est-ce que vous pensez, et ça, bon, les chiffres sont assez révélateurs, les proches aidants des personnes atteintes d'Alzheimer, c'est des gens qui sont aussi assez vulnérables. On parle d'une grande quantité de consommation d'antidépresseurs, de médicaments. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Est-ce que ils sont aussi, d'après vous, confrontés à cette vulnérabilité-là dans ce rôle de proche aidant?
Oui. Les aidants familiaux deviennent exclusivement des aidants. En général, puis ils oublient leurs propres besoins.
Mm-hmm.
Alors, quand je travaillais à Baluchon-Alzheimer, puis que je demandais aux aidantes, souvent c'était des aidantes, mais quels sont vos besoins de répit? Mais la majorité ne savait pas dire quels étaient leurs besoins. Ils sont tellement centrés sur les besoins du proche qu'elles oublient leurs besoins. Est-ce que c'est un besoin de loisir? Est-ce que j'ai un besoin de confidence? Est-ce que j'ai un besoin d'information?
Oui.
Alors, c'est comme si les aidants n'étaient que des aidants.
Oui.
Et je leur répète, c'est extrêmement important d'aller demander de l'aide parce que le chemin est difficile à traverser et souvent, on retrouve deux malades à la fin du parcours.
Ben oui.
Il faut se répéter que demander de l'aide, là, c'est pas une faiblesse, c'est une force.
Mm-hmm. Et ça, vous le redites souvent dans le livre, aller demander de l'aide, mais vous soulignez aussi à quel point les proches aidants ont de la difficulté à demander de l'aide et vous proposez même un processus de demande d'aide.
Oui, c'est pas moi qui ai inventé ce processus-là. C'est qu'à un moment donné, au début, avant de créer Baluchon, en fait, je travaillais à l'Institut de gériatrie à Montréal, au centre de recherche, et on avait conçu un programme pour aider les aidants à identifier leurs besoins. Pour ensuite aller demander de l'aide. Alors, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est le programme en question. Parce qu'on avait remarqué que si on prenait pas le temps d'identifier avec les aidants quelles sont leurs réticences à demander de l'aide, ils n'allaient pas chercher d'aide.
Ah oui.
Alors, on avait retravaillé notre programme pour un 3 heures de réflexion. Pourquoi je ne vais pas chercher de l'aide? Et ça a été toute une différence dans la démarche des aidants par la suite.
Et qu'est-ce qui ressortait?
Ce qui ressortait, c'était que la crainte, entre autres, est-ce que mon proche va accepter d'avoir une étrangère dans la maison?
Mm-hmm.
Parce qu'il est tellement habitué à moi qu'il va mal réagir. Là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que c'est très souvent le contraire qui arrive.
Ils sont contents de recevoir quelqu'un de moins connu avec eux.
Oui, puis ça fait du bien, oui. Tu sais, de ne pas toujours voir la même personne dans la maison. Mm-hmm. On parle beaucoup de l'épuisement des aidants, mais moi, je parle de l'épuisement des aidés aussi.
Aussi, qui est peut-être encore plus méconnu, et ça me fait penser à un passage dans votre livre où vous dites que les personnes dans les AME, bon, peut-être pas toutes les personnes, mais certaines d'entre elles, se sentent toujours étrangers, que ce soit à la maison ou dans le centre qui les héberge. Ils ont de la misère à retrouver leur repère et se sentent jamais à la bonne place, jamais à la maison.
Oui. Oui, parce qu'ils perdent leur repère, justement, ils deviennent des étrangers parce qu'ils ont perdu les us, les coutumes. Mm-hmm. Alors, c'est de là l'extrême importance de continuer à établir des relations significatives mm-hmm. avec la personne, de l'entourer de gens qui ont une signification pour elle, des objets qui sont significatifs aussi. Ouais. Alors, quand on héberge une personne atteinte, c'est important qu'on lui apporte des choses qui lui appartiennent et de décorer sa chambre pour qu'elle retrouve un peu l'atmosphère de chez elle.
Et aussi, ce qui m'a extrêmement marquée dans votre démarche, Marie Gendron, c'est toujours ce souci d'aller chercher qu'est-ce qui parlait, qu'est-ce qui résonnait à la personne dans son passé. Donc, d'aller voir, ben, est-ce que c'était une personne d'affaires? Donc, peut-être que le temps, la précision, c'est très important pour cette personne-là. Ou est-ce que cette personne-là était couturière et qu'elle avait un rapport bien particulier avec les tissus? Je peux peut-être lui apporter des textures. Mm-hmm. Ça aussi, ça fait partie, ça vous distingue dans votre démarche.
Oui, en tant que baluchonneuse, c'était extrêmement important de connaître le passé parce que ce sont des outils pour entrer en contact avec la personne.
Ouais.
Alors, moi, je me suis documentée beaucoup sur les papillons avant d'aller travailler baluchonner chez un monsieur qui est un grand expert des papillons. Alors, on sait que la mémoire à long terme est intacte beaucoup plus longtemps que la mémoire à court terme. Donc, c'est intéressant d'aller voir dans son jardin de souvenirs quelle a été sa vie comme travailleur ou dans son enfance. Alors, ce sont des outils extrêmement utiles comme intervenant.
Oui, parce que j'imagine qu'on ne veut pas que l'histoire de cette personne-là s'effrite.
On ne veut pas que la personne s'effrite non plus.
Ben oui, et toute la famille, toutes les proches.
C'est ça, que le concept de soi reste intègre le plus longtemps possible.
Oui. Le temps file, Marie Gendron, j'ai l'impression que on aurait pu parler encore de longues minutes de ce livre-là, de la réédition du livre « Le mystère Alzheimer, l'accompagnement, une voix de tendresse et de compassion ». J'ai remarqué aussi qu'à la fin, il y a une large section qui est destinée aux questions, une panoplie de questions, j'imagine, qui vient beaucoup des familles et des proches.
Oui, ce qui arrive, c'est qu'en fait, il y avait déjà eu une première édition il y a très, très longtemps. C'était seulement questions et réponses sur la maladie d'Alzheimer parce que j'étais à ce moment-là à un projet de recherche image. Et quand on donnait des conférences, c'était toujours les mêmes questions qui revenaient. Mm-hmm. Alors, d'où l'idée des questions et réponses, finalement.
Et c'est un besoin, ça, des familles, cet accès à l'information, de comprendre ce qui se passe chez leurs proches?
Oui, parce que c'est la première fois qu'ils sont en contact avec la maladie.
Mm-hmm. Mm-hmm. Marie Gendron, on va se quitter là-dessus, mais quel message, parce que je veux revenir vraiment aux proches aidants, ceux qui sont les piliers, mais peut-être un peu trop oubliés et qui souffrent aussi à un moment donné ou l'autre. Quel message vous aimeriez laisser aux proches aidants?
Bien, je leur dis, prenez soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas continuer à prendre soin de votre proche. J'aime beaucoup l'image dans les avions, j'en parle dans le livre, il me semble. C'est quand on nous montre au début, en cas de catastrophe, la maman avec son enfant commence par mettre le masque elle-même pour pouvoir s'occuper de son enfant par la suite. Alors, il faut que l'aidant prenne de l'oxygène pour pouvoir accompagner son proche.
Ce livre, Marie Gendron, est vraiment une ressource qui est extrêmement pertinente et j'ai trouvé aussi... très lumineuse parce que, comme je le disais tantôt, oui, c'est touchant, mais c'est éclairant. Puis en même temps, bien, ça m'a fait sourire et ça m'a beaucoup touchée. Merci. Je répète le titre, Le mystère Alzheimer, l'accompagnement, une voix de tendresse et de compassion. C'est chez les éditions de l'Homme, Marie Gendron, au Saguenay. Merci beaucoup, au plaisir.
Oui, merci. Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Sylvie Manasse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en massothérapie et travaillez auprès de ces personnes touchées par le crime. Et comme je le disais tout à l'heure un petit peu en introduction, c'est KinéConcept qui a initié un partenariat avec le Centre de justice réparatrice, qui est un lieu où on crée des rencontres avec des personnes qui ont commis un crime et qui ont été victimes d'un crime, et vous offrez des soins en massothérapie avec cette clientèle. Pourquoi d'abord cette collaboration-là? En quoi c'était important?
En fait, c'est moi qui ai initié le partenariat avec l'Institut KinéConcept. J'ai moi-même vécu des agressions sexuelles dans mon enfance et j'ai utilisé les services de justice réparatrice. Mm-hmm. Donc, je suis à même de savoir, de connaître les bienfaits, en fait, de la massothérapie sur une personne qui a vécu des agressions sexuelles. Donc, ce que je trouvais, en fait, c'est que quand on fait le processus de justice réparatrice, quand on rencontre des hommes, des agresseurs, en fait, des personnes qui ont agressé, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de persévérance pour faire face à tous les symptômes physiques qui peuvent survenir, en fait, pendant ces rencontres-là. Donc, moi, j'avais la chance, en fait, dans ma vie d'avoir beaucoup de soutien et je me suis dit que c'était pas tout le monde qui avait la même chance que moi j'avais. Alors, j'ai voulu pouvoir offrir aux gens qui utilisent le service de justice réparatrice, j'ai voulu pouvoir leur offrir un service gratuit pour qu'ils se sentent soutenus dans la démarche.
Redonner
au suivant, oui.
La massothérapie, ça amène quel bienfait pour les personnes qui ont été touchées par le crime?
La massothérapie, je dirais que ça peut apporter le réconfort, ça peut apporter la connaissance, l'appropriation de son corps, ça peut apporter aussi une meilleure interaction avec la personne extérieure à soi, en fait.
Oui. J'imagine aussi que ça peut favoriser la confiance envers les autres, parce que lorsqu'on a vécu, que ce soit un abus physique ou bon, un abus sexuel, ben, faire confiance à l'autre, ça peut devenir difficile, mais lorsque l'on connaît quelqu'un qui nous fait du bien, on peut réapprivoiser l'humain, là.
Oui, on réapprovise le toucher, on réapprovise l'humain. On se réapproprie, en fait, sa propre vie en étant en relation avec les autres. Et dans le processus de justice réparatrice, c'est des rencontres qu'on fait entre des personnes, comme vous l'avez dit, qui ont été victimes d'un crime, et c'est des rencontres entre une personne qui a vécu un crime et une personne qui a commis un crime. Et quand on fait ces rencontres-là, il y a toujours deux animateurs, un homme et une femme, et il y a une personne aussi qui est très, très, très importante, c'est le représentant de la communauté.
Oui.
Le représentant de la communauté, en fait, Je me suis rendu compte en discutant avec d'autres personnes qui avaient fait le processus de justice réparatrice que c'était une personne clé, en fait, dans la libération des effets du crime. Parce que les thérapeutes, on peut toujours penser qu'ils ont un profit de faire ce genre de rencontre-là, parce que, bon, peut-être qu'ils sont thérapeutes dans leur vie puis qu'ils cherchent peut-être des clients pour après les rencontres. On peut toujours essayer de trouver une raison pour laquelle un animateur voudrait faire ce genre de rencontre-là, mais le représentant de la communauté, lui, il est là bénévole, comme tous les autres, mais il est là seulement pour représenter le fait qu'il y a des gens qui ont été témoins du crime et il n'y a personne qui a réagi. Mm-hmm. Et ça, ça a un impact vraiment majeur dans le rétablissement, si on veut, de l'appropriation de soi-même. Puis je trouve que le massothérapeute joue un peu ce rôle-là dans le partenariat qu'il y a entre le service de justice réparatrice et Kinéconcept, parce qu'on offre gratuitement, en fait, on fait un projet pilote actuellement, on veut offrir gratuitement des services de massothérapie aux gens qui ont été touchés par le crime. Mm-hmm. Donc, pour que ces gens-là, qui souvent sont un peu laissés par leurs proches pendant qu'ils font le processus, parce que, bon, ils vivent beaucoup d'émotions, des fois ça peut être long, puis des fois les gens de l'entourage peuvent un peu s'éloigner de la personne qui est en souffrance. Et on se disait, je me disais, ben, en offrant un service gratuit par un membre de la communauté, par le biais de la massothérapie, oui, eh bien, on peut offrir beaucoup.
Et j'imagine qu'en tant que massothérapeute, il faut savoir s'adapter à cette personne-là, justement, qui a vécu différentes souffrances et qui peut-être que le toucher, bien, c'est pas nécessairement évident pour elle.
C'est sûr qu'on suit exactement, on suit les mêmes étapes que si on massait une personne qui aurait rien vécu, mais on met un accent particulier sur le déroulement des rencontres. Par exemple, on va peut-être expliquer un peu davantage quelles sont les manœuvres qu'on va faire, pourquoi on va les faire. C'est sûr que le toucher va être peut-être un peu différent aussi. Il y a des zones qui, peut-être normalement, qu'on voudrait masser parce que tel muscle est en synergie avec un autre muscle, mais bon, on va le laisser tomber peut-être pour quelques séances.
On va y revenir. Un petit peu. Voilà.
C'est ça. Beaucoup en fait, l'important, c'est la communication avec la personne et le respect. Alors, d'abord, la personne, elle est une personne d'abord et avant tout.
Alors, www.kinéconcept.com pour en savoir davantage. Rapidement, Sylvie, un événement le 12 décembre.
Oui, le 12 décembre, il y aura une clinique de massothérapie. Donc, pour les massothérapeutes qui sont intéressés de se joindre à nous ou les personnes qui voudraient recevoir un massage en donnant de l'argent à un organisme. Et voilà, donc le 12 décembre.
Sylvie Vanasse, étudiante en massothérapie, merci beaucoup de votre présence en studio. Rémi Hermoso à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. Demain, on vous parle de la taurine. Vous savez ce que l'on retrouve dans les boissons énergisantes? On va découvrir avec une nutritionniste si c'est néfaste pour notre santé. On se voit demain, on se parle demain. Portez-vous bien, bye bye!